Je vous ai fait venir aujourd'hui, mes amis, sonneurs de trompe, joueurs de corps, comme disent les gens qui ne connaissent pas le métier, parce que je voulais vous parler de ce commandement assez curieux qui se trouve dans l'Ancien Testament. Je vous ai dit que le dernier commandement que Dieu donne à Moïse sur le mont Sinaï concerne l'obligation de sonner du cor, de la trompette. Enfin, on ne sait pas très bien de quel instrument, c'était un instrument en cuivre dans lequel il fallait, sonner. Or, s'il y a un certain nombre de commandements dans l'Ancien Testament, la question c'est de savoir, nous, en tant que chrétiens, ce que nous en faisons. Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. On peut d'abord dire qu'en tant que chrétiens, nous sommes libérés de l'Ancien Testament, et que donc tous ces commandements de l'Ancienne Alliance ne nous concernent pas, et que nous pouvons les traiter, je dirais, avec mépris, ou tout au moins ne pas s'en préoccuper du tout. Mais cette attitude ne me convient pas, et je ne pense pas en tout cas que cet était le point de vue du Christ. Vous savez que Jésus lui-même a dit dans le sermon sur la montagne, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Et il a dit aussi, « Quiconque enseignera à transgresser le plus petit iota de la loi est le moindre, je dirais, de tous ceux qui peuvent être, autrement dit. » Cela veut dire que le Christ lui-même n'a jamais enseigné de traiter, je dirais, par-dessus la jambe les commandements de l'Ancien Testament. Certes, il avait une vision, je dirais, assez libérale de la chose en disant « L'important, ce n'est pas d'appliquer à la règle à la lettre, ce n'est pas d'appliquer des commandements tels quels, d'une façon servile, mais c'est de comprendre le sens, la signification de ces commandements. Et je crois que c'est là peut-être l'attitude juste qui consiste non pas à se débarrasser de l'Ancien Testament, mais à le réinterpréter. C'est en fait ce que nous faisons. Par exemple, vous savez qu'il y a les 10 commandements, et dans les 10 commandements, il y en a un bien connu qui est celui du sabbat. Normalement, il est bien écrit, tu ne feras rien le jour du sabbat, ni toi, ni qui que ce soit chez toi, ni ton serviteur, ni ton âne, ce jour-là, tu ne feras rien. Et les chrétiens, à mon avis, très justement, interprètent cela en disant, le problème, ce n'est pas de compter les jours, et puis le septième jour, de dire, quoi qu'il se passe, je ne ferai rien. Parce que, dit Jésus, si le septième jour, ton frère a besoin de ton aide, eh bien, tu iras l'aider. Et si quelqu'un peut être soigné, tu le soigneras. Et donc, il ne s'agit pas d'appliquer à la lettre le commandement, mais d'en comprendre le sens et de dire, il est important de garder un temps pour Dieu et il est important de ne pas sans arrêt être dans l'activité, dans le travail, dans l'action, mais à un moment donné, il faut s'arrêter, trouver le temps de réfléchir, de prier et trouver le temps de comprendre que l'on n'est pas identifié à sa propre activité ou à son propre travail. Donc ce commandement du sabbat, je prétends que moi, en tant que chrétien, je le respecte d'une façon scrupuleuse, non pas en prenant nécessairement un jour de congé qui serait le septième, mais en gardant autant que possible, je ne sais pas, peut-être un temps, de temps en temps, un week-end par an, ou une minute par jour, ou une seconde par heure, ou une heure dans la journée ou dans la semaine, je ne sais pas, mais de garder un temps que justement on met à part pour ne rien faire d'autre que de penser à Dieu. Et donc il s'agit, voyez-vous, de réinterpréter justement ces commandements. Alors maintenant, si nous prenons celui qui concerne la musique, là, c'est très curieusement, en général, passé totalement par profits et pertes, et personne n'en parle, parce qu'en effet, ce serait sans doute compliqué que de sonner du cor pour tout le monde, et ce serait une chose assez difficile. Mais néanmoins, je crois qu'il faut essayer de comprendre ce que le texte veut nous dire. Cela avait une telle importance que, non seulement c'est l'ultime commandement de Dieu, mais sans doute savez-vous aussi qu'il y avait, dans l'Ancien Testament, une fête des trompettes, c'est-à-dire qu'il y avait, c'était une fête juive qui était entièrement consacrée au fait de sonner des trompes ou des trompettes. Et puis également, on l'entend dans un bon nombre de psaumes qui rappellent ce commandement en disant « Sonnez du cor pour notre Dieu, c'est là une prescription perpétuelle qui a été faite à Joseph en Égypte pour toutes les générations. » Alors que devons-nous faire ? Est-ce que nous devons tous apprendre à jouer du cor ou à sonner de la trompette? Eh bien, je ne pense pas, bien sûr. Je crois personnellement que Dieu se fiche complètement qu'on joue du cor, du piano, de la cornemuse, du triangle ou du fifre à roulette ou je ne sais quoi. Je pense que Dieu s'en moque, évidemment, et que la question n'est pas là. Mais qu'il faut essayer de comprendre, je dirais, la signification de ce geste dont il est question dans l'Ancien Testament. Quand on regarde ce chapitre de Nombre 10, tout ce chapitre entièrement consacré donc au commandement sur le cor, les choses sont très bien expliquées. Et on voit pourquoi Dieu commande de sonner du cor. Et on y voit plusieurs choses. D'abord, que le son du cor, c'est toujours associé à la voix même de Dieu. Quand Dieu parle, on dit que sa voix était puissante, comme le son de la trompette. C'est d'ailleurs aussi le seul moment où il y a du cor qui joue tout seul dans la Bible. Il y a un moment où il y a du cor qui joue et personne n'en joue, personne d'autre que Dieu. C'est justement pendant le don de la loi sur le mont Sinaï. Parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui parle. Et ensuite, donc le son de la trompette que l'on retrouve dans l'Apocalypse au moment du jugement dernier, c'est pour nous dire aussi, voilà, Dieu parle. Il y a une sorte de proclamation de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une parole qui est proclamée avec force, avec éclat, une parole qui fait du bruit en quelque sorte et que tout le monde peut entendre de loin. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que ça explique pourquoi on nous enseigne simplement à sonner de la trompette pour dire, eh bien, cette parole de Dieu, elle n'a pas été dite une fois pour toutes. Il faut à notre tour que nous la reproclamions, c'est-à-dire que nous nous remettions en présence de cette parole proclamée. Parce que si cette parole reste lettre morte, à quoi sert-il qu'elle ait été donnée? Si la Bible a été écrite, mais qu'elle reste fermée sur votre table de nuit, à quoi sert-elle? C'est une parole qu'il faut rouvrir, et il faut la reproclamer, et il faut la lire, en quelque sorte. Jusque dans le Moyen-Âge, on ne lisait pas à basse voix, on lisait toujours à haute voix, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lecture mentale dans sa tête. Et je pense que c'est là une chose fondamentale de comprendre qu'il faut que cette parole écrite soit redite et relue, reproclamée. Alors là, faites-le. Sonnez-vous de la trompette de temps en temps, c'est-à-dire faites résonner dans votre vie tous ces commandements de Dieu, toutes ces paroles de l'Évangile. Il faut les remettre en vie et qu'elles ressortent, autrement dit, et qu'on puisse de nouveau les entendre. Les trompettes, elles ont un rôle absolument extraordinaire. On nous dit que, d'après toujours le nombre 10, que ce devait être simplement les prêtres qui ont joué. Ça, c'est assez compréhensible, parce que si la trompette représente la parole même de Dieu, on peut dire qu'il n'y a que les prêtres qui ont le droit, en quelque sorte, de proclamer cette parole. Mais on voit que petit à petit, dans l'Ancien Testament, il y a un glissement, et que progressivement, tout le monde est appelé à proclamer cette parole. Et je crois qu'il y a là, en particulier dans le livre des psaumes, une conception élargie qui va jusqu'au sacerdoce universel, en quelque sorte, en disant ce qui est normalement réservé aux prêtres de proclamer la parole, eh bien c'est à vous tous. Parce que nous sommes tous prêtres, c'est-à-dire tous non seulement responsables de notre propre relation à Dieu, mais nous sommes tous aussi responsables de nos frères et de ceux qui sont autour de nous. Donc oui, nous sommes également responsables de faire en sorte que dans ce monde, la parole de Dieu soit proclamée. Là, j'ai un petit peu peur, parce que je me dis, tiens, mais est-ce qu'on veut nous transformer en témoins de Jéhovah ou en démarcheurs sectaires, vous savez, qui montent sur des tabourets à la sortie des marches de métro pour essayer de proclamer la bonne parole de l'Évangile? Personnellement, je n'ai pas trop la vocation à ça, et je ne le fais pas, et je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose de le faire. Mais quand on dit de proclamer la parole de Dieu, ce n'est pas nécessairement de proclamer une parole dogmatique. Ce n'est pas nécessairement de lire des passages de l'Évangile dans les stations de métro, mais c'est de proclamer le sens même de cette parole de l'Évangile. Or, la parole de Dieu, la parole de l'Évangile, elle est plus large, je dirais, qu'un texte écrit. C'est une parole d'amour, de pardon, de service, de générosité, de don de soi. Et je pense que dans ce rôle-là, nous avons tous fort à faire d'être dans ce monde des mégaphones de la parole de Dieu. Parce que qui dit dans ce monde qu'il faut pardonner? Qui dit qu'il faut donner? Qui dit qu'on peut servir? Qui dit qu'on ne s'humilie pas à rendre service à un autre? Qui dit qu'on ne s'humilie pas à se faire le serviteur? Qui dit qu'on ne s'humilie pas à donner gratuitement et à donner sans intérêt? Eh bien, le monde lui-même ne le dit pas. Mais nous, eh bien, nous devons le dire. Et nous sommes appelés à être, je dirais, les trompettes éclatantes dans ce monde, qui professons dans ce monde matérialiste, dans ce monde d'égoïsme, ce monde d'intérêt, une parole de gratuité, une parole d'amitié, une parole de générosité, une parole de grâce, une parole de don de soi-même. Et là, c'est un commandement fondamental que nous devons tous faire. Et cela, il ne faut pas le laisser aux simples professionnels, je dirais, de l'Église. C'est à chacun de le faire, et de le faire par sa propre façon d'être, ou de le faire pas forcément par des paroles articulées, par sa manière d'être aussi dans le monde, mais il faut que ce soit éclatant. Et par ailleurs, on comprend, on voit aussi que cette trompette dont il est question dans Nombre 10, elle sert à d'autres choses. Elle sert à rassembler la communauté, et elle sert aussi à se préparer au voyage et également à annoncer la guerre. Donc voyez-vous, il y a trois fonctions fondamentales. Pour ce qui est de rassembler la communauté, ça je comprends assez bien. Ben, c'est ce que nous faisons là. Nous nous réunissons autour de la proclamation de la parole. Et je crois que ce que nous faisons là n'est rien d'autre, en quelque sorte, que l'application de ce commandement de Nombre 10. Rassemblez-vous de temps en temps devant une parole claire qui soit proclamée, et quand la parole claire sera proclamée, vous vous rassemblez. On se rassemble sous une parole, sous un évangile, sous une conviction. Et si nous ne nous rassemblons pas autour de cette conviction, que serons-nous? Je crois qu'il y a la première nécessité, c'est que les chrétiens se rassemblent. Alors vous me direz, c'est vrai, on peut très bien être chrétien dans son coin, et on peut pratiquer dans son coin en disant « moi, j'aime mon prochain, je suis généreux, ça me suffit, et puis la Bible, d'abord, je la connais, je l'ai apprise à l'école biblique quand j'étais petit ». Mais je crois que ça ne suffit pas. Il faut faire masse, il faut se rassembler, il faut qu'il y ait une dimension, je dirais, d'église, de communauté. Sinon, nous ne sommes que des individus isolés, et les individus isolés ne sont pas toujours les plus écoutés. Ça, même les politiciens le savent, si on veut se faire entendre, il faut faire une manifestation. Il faut faire quelque chose de masse. Eh bien, l'Église doit se rassembler pour montrer qu'il existe, quelque part, des gens qui se rassemblent autour de cette parole. Le deuxième point de l'importance de cette trompette, je vous disais, c'est pour partir, pour annoncer qu'on s'en va. Ça, c'est assez paradoxal, parce que la trompette, à la fois, rassemble, et en même temps, on se rassemble pour partir. Je crois que c'est là une image effectivement assez belle et assez compréhensible du rôle du croyant, voire même de l'assemblée des croyants. C'est qu'on ne se rassemble pas pour former une secte, on se rassemble pour se recentrer sur la parole et pour mieux repartir ensuite et pour partir dans le monde. Et donc oui, ce signal de la trompette, c'est aussi le signal du départ. On y va, on va quelque part, on va dans le monde parce qu'on a une mission à avoir. Et cette mission, elle est effectivement importante, et elle n'est pas si simple, parce que le départ, je dirais, dans le désert, comme Moïse se promenait en quittant le Sinaï, après ils vont se promener dans le désert, c'est pas franchement une promenade de santé, ni les croisières paquets, c'était quand même une promenade assez difficile. Et c'est pourquoi on en arrive au dernier point, qui est que la trompette était faite pour partir à la guerre. Et en effet, on sonne de la trompette pour partir à la guerre, pour annoncer le combat. Et là, c'est en effet autre chose, c'est qu'on part dans ce monde pour combattre. Ce thème du combat chrétien, ou du combat du croyant, là encore, évidemment, il faut le spiritualiser, mais il est l'a été professé maintes fois dans l'histoire de l'Église, mais de comprendre que d'une certaine manière, être chrétien dans ce monde, c'est une forme de combat. C'est une forme de combat contre un monde qui est hétérogène à ce discours. Et il faut sans arrêt se battre, je dirais, pour rester ce que l'on est, pour pouvoir proclamer ce en quoi l'on croit et pour pouvoir témoigner de ce qui nous anime. Donc il y a un combat et il faut mener ce combat. Maintenant, nous dit Paul, si jamais la trompette rend un son indistinct, qui se préparera au combat ? Et si la flûte fait de la bouillie pour les chats, bon, je fais une transcription un peu moderne, eh bien, qui va comprendre quoi que ce soit à ce que vous jouez ? Réponse, personne. Et je pense que là, Paul nous met effectivement devant une vérité assez contraignante, de dire, mais dans le fond, nous pouvons partir dans ce monde, nous pouvons combattre dans ce monde, nous pouvons être peut-être dans ce monde des mégaphones d'une parole, d'une conviction de quelque chose. Mais si au fond de vous-même, ce que vous croyez, c'est flou, si au fond de vous-même, tout ça est indistinct, si votre foi n'est qu'une sorte de purée héritée de votre enfance et d'un catéchisme mal digéré, qui se préparera au combat ? Et qui comprendra quoi que ce soit à ce dont vous voulez témoigner ? Et donc la première chose à faire, eh bien c'est si vous voulez jouer de la trompette, apprenez à en jouer, voilà. Si vous voulez jouer du cor, apprenez à jouer du cor. Et si vous voulez être dans ce monde des artisans d'une parole claire et vive, eh bien il faut à la base soigner sa propre conviction et savoir ce que l'on veut dire, ce que l'on veut faire. Y être effectivement dans un sens qui aille comme cela. Et ça, ce rôle qui nous est donné, il est tout à fait essentiel et fondamental. Parce qu'il y a encore un dernier point que je vais vous dire. C'est que dans la Bible, en fait, il y a bien sûr cette trompette qui est l'instrument de cuivre, ou la trompe, je ne sais pas, mais en fait, il y a encore autre chose qui est sonnée avec une embouchure, c'est le cor, la corne, le chauffard, la corne de bélier. Et on pense que dans l'histoire de l'Ancien Testament, c'était d'abord le chauffard, la corne de bélier qui était utilisée. On nous dit depuis le sacrifice d'Isaac, au moment où Abraham trouve le bélier dans le buisson, et à ce moment-là, on dit que depuis ce jour-là, on doit sonner de la corne de bélier pour se rappeler de cet épisode. Et ensuite, on a fait des cornes en métal, en quelque sorte. Mais il est toujours resté dans la trompe ou la trompette en métal le souvenir de ce qu'est le chauffard, c'est-à-dire la corne de bélier. Or, la corne, là, c'est un petit jeu de mots hébraïque assez curieux et qui peut entraîner des contresens, comme je vais vous le montrer. La corne, ça se dit keren, et keren, ça veut dire la corne, et ça veut dire aussi la puissance. C'est pourquoi des gens qui connaissant mal l'hébreu et traduisant l'Ancien Testament, disant que Moïse descendait du mont Sinaï avec sur la tête toute la puissance de Dieu, ont traduit avec sur la tête les cornes de Dieu. Et du coup, depuis ce moment-là, on représente Moïse avec des cornes, le pauvre homme. Mais c'était simplement qu'il était revêtu de la puissance. Et on voit à ce moment-là, un dernier point théologique fondamental, c'est que ce son de la trompette, de la corne ou du cor, qui est un son d'appel, eh bien c'est ça fondamentalement la puissance du croyant. Et c'est ça même la puissance de Dieu. C'est-à-dire que la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu, n'est rien d'autre qu'une puissance d'appel. Or l'appel est quelque chose qui laisse totale liberté à ceux qui sont à l'écoute de cet appel, parce qu'on peut refuser de l'entendre ou on peut l'entendre. Et je crois que la puissance de Dieu dans ce monde, c'est une puissance d'appel, c'est une vocation qu'il nous adresse, c'est un appel qu'il nous dit en disant « Mais enfin, arrêtez un peu de vous mettre sur la gueule et pardonnez-vous les uns les autres !» C'est ça la puissance de Dieu. C'est un appel d'amour, c'est un appel de pardon, de grâce et de don. Et là, que faire si personne ne l'entend ? Eh bien, on ne peut rien faire d'autre. Mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est écouter cet appel et puis essayer de le restituer. Et comme nous avons nous-mêmes été à l'écoute de cet appel de Dieu et de cette parole, de cette trompe, de ce corps extraordinaire qui sonne à nos oreilles comme une parole de vie, de lumière, de vérité. Cette lumière, ce timbre éclatant extraordinaire de la parole de Dieu, eh bien nous devons à notre tour devenir les instruments de Dieu. Et devenir non seulement ceux qui proclamons cette parole, mais aussi être les corps dans lesquels Dieu lui-même souffle. Parce que là encore, c'est un point fondamental. C'est qu'il n'y a pas Dieu qui nous donne, et puis nous qui devons essayer de faire aussi bien que lui dans ce monde comme des petits dieux. Certes, c'est une partie de notre vocation. Mais dans toute la Bible, il est question que Dieu nous aide et nous accompagne dans ce rôle. Et cette mission qu'est la nôtre, ce n'est pas une mission trop haute pour nous de dire « pourvu que je sois à la hauteur et capable de témoigner dans ce monde de l'amour et de la vérité ». C'est que nous sommes nous-mêmes les trompes et les corps de Dieu. Et pour cela, si nous voulons rendre un son, eh bien il suffit de laisser l'Esprit de Dieu souffler en nous. Parce que vous savez que, en grec comme en hébreu, comme en latin, pneuma, c'est à la fois l'Esprit et c'est le vent. C'est-à-dire que l'Esprit et le vent sont dits par un seul mot dans toutes ces langues anciennes. Et cela veut dire que nous pouvons être nous-mêmes les instruments de Dieu dans ce monde, les mégaphones de Dieu, les porte-paroles de Dieu, les amplificateurs de Dieu, les haut-parleurs de Dieu. Si nous laissons l'Esprit de Dieu souffler en nous. Et il faut que nous laissions l'Esprit de Dieu souffler en nous et que nous nous laissions, et que notre existence, notre vie elle-même parvienne à vibrer sous l'Esprit de Dieu, sous le souffle de Dieu, comme un instrument de cuivre vibre sous le souffle de celui qui en joue. C'est pour ça, je crois, que les instruments avant, comme la trompette, comme l'orgue, ont toujours été les seuls instruments admis dans le culte, parce que ce sont des instruments spirituels. Et un tuyau d'orgue, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que un tuyau d'orgue, c'est le seul objet pour lequel on dise qu'il a une bouche et qu'il parle. C'est les termes officiels en facture d'orgue. Eh bien, nous sommes comme les tuyaux d'orgue, que Dieu joue, et nous sommes, nous tous, comme un orgue. Dans l'orgue de l'Étoile, il y a 4000 tuyaux. Je crois qu'on doit avoir à peu près 4000 paroissiens à l'Étoile. Et donc, c'est à peu près la même chose. Et chacun rend un petit son. Il y en a qui rendent un gros son, d'autres un petit, d'autres qui ne parlent pas souvent, mais s'ils n'étaient pas là, ils manqueraient. Et l'important, c'est que tout ça, soit mu par une gigantesque machine pneumatique qui est l'Esprit de Dieu. Donc voilà, frères et sœurs, nous sommes non seulement au bénéfice de ces trompettes d'argent de l'Ancien Testament, nous sommes au bénéfice de l'Esprit de Dieu qui souffle en nous, qui non seulement met en nous une vocation lourde et difficile d'être nous-mêmes dans ce monde les trompettes, pas du jugement dernier bien sûr, mais les trompettes d'une vérité fondamentale qui peut bouleverser le monde, et par ailleurs nous sommes au bénéfice de l'Esprit de Dieu lui-même qui est ce souffle divin, ce souffle de vie, de pardon, de lumière, de joie, de paix, de nouvelle création, ce souffle de résurrection et de vie nouvelle, tout cela qui peut souffler en nous et qui peut nous rendre comme un instrument merveilleux qui peut faire une des plus belles musiques, une des plus belles harmonies et qui peut être dans ce monde une proclamation dont le monde a grand besoin. Voilà ce commandement perpétuel, et je conclurai comme ce psaume en disant « Ce commandement, il nous a été donné, et c'est un commandement pour vous, pour vos enfants, pour toutes les générations, de génération en génération. Ne l'oubliez pas, parce que sans cela, il n'y a plus grand-chose dans ce monde. » Amen.